Gabriel Estier, rêverie d'un sociologue. Monsieur Ménage, professeur d'histoire des religions à l'Institut catholique de Paris, vient de publier un livre passionnant, le premier, je crois, d'une série intitulée « Les religions de la préhistoire ». D'autres suivront, mais je doute que la en soit aussi vif. Songez qu'il s'agit ici des plus anciennes races humaines connues et probablement des premières races humaines. Songez que dans ces grottes profondes, étranglées, humides et tièdes, que le caprice d'un enfant ou l'ardeur d'un chien de chasse acharné à poursuivre sa proie on fait découvrir, vivait il y a quelque 20 ou 15 000 ans, des hommes au front haut, à l'esprit justicieux, industrieux, à l'œil vif et sûr, des hommes qui ont inventé l'outil, jusqu'au dé de la coudre. On voit encore les petits creux que fait la tête de l'aiguille quand le doigt passe le fil dans la rue d'étoffe, y compris la beauté. Quelle merveille, les bisons millénaires qui semblent sortir des sombres parois, ramassés sur eux-mêmes et puissamment relevés de noir et d'ocre, dessinés d'un trait si sûr. Comment de tels hommes n'auraient-ils pas eu le sentiment de mystère, des choses, de l'au-delà, du divin? Ils l'ont eu, et M. Ménage en a diligemment rassemblé les preuves. L'homme quaternaire creusait des fosses pour ses morts. Pieusement, ils posaient leur tête nue sur un oreiller de pierre. Ils mettaient à côté d'eux leurs armes, leurs outils, et ils les revêtaient de leur parure. Il semblait même qu'ils les peignaient d'un ocre rouge, comme s'ils voulaient donner plus de solennité à leur mystérieux sommeil. Ou leur permettre peut-être de faire descendre figure dans le monde des esprits, ou peut-être leur assurer je ne sais quelle vivacité surnaturelle, car le rouge c'est le sang, et le sang c'est la vie. Il les ligotait aussi, du moins on peut le croire, bien que les preuves ne soient pas si nombreuses et surfaces. Les redoutait-ils? Quoi qu'il en soit, ce rude et ingénieux chasseur restait pensif devant la mort. Elle posait à son esprit un problème, et il y répondait par le respect, la crainte, une vague adoration et sans doute la vision intérieure d'un monde invisible. Peut-être les fresques géniales des grottes d'Altamira et de Front de Köln doivent-elles leur beauté au sentiment mystique qui inspirait l'artiste chargé de les peindre. Et on ne peut s'empêcher de penser que ces sales recherches richement ornées et dont l'accès est souvent si difficile, ont été les sanctuaires des premiers hommes. C'est en 1880 que les fresques préhistoriques d'Altamira ont été découvertes par les yeux perçants d'une fillette qui accompagnait son père dans la caverne. Je suppose que cette découverte a été connue de Gabriel Tarde, et attirer son attention sur les civilisations troglodytiques. En tout cas, le livre de M. Ménage me fait penser invinciblement à cette rêverie du pénétrant sociologue qui apparut en 1896 sous le titre de « Fragments d'histoire future » et qui me semble moins connue qu'elle ne mériterait d'être. Ce n'est qu'une rêverie, ou si l'on veut, un mythe. Mais Platon aimait ce mode de philosopher. Il savait dire avec une bonne grâce charmante, lorsqu'il avait vigoureusement ratiociné, « Maintenant, je vais vous conter une fable. » Et la fable se déroulait en effet et ravissait ceux qui l'écoutaient. Et sous son voile frisé, la vérité qu'on ne cherchait plus apparaissait. Il faut savoir gré tout particulièrement aux sociologues qui ne daignent pas de recourir au mythe. La sociologie est volontiers austère. On ne veut point séduire, mais convaincre. Elle est rébarbative avec volupté, prenant à dessein, hérissée de chiffres et de graphiques. Elle oublie trop souvent que sa matière est la plus délicate, la plus nuancée, la plus complexe qui soit, et que c'est l'homme même. Oh, elle ne l'oublie pas toujours. Et l'on est charmé, par exemple, d'ouvrir un livre comme les leçons sur l'évolution des valeurs qui vient tout récemment de paraître de M. Bouglier. L'accent en est vif, personnel. On sent un homme qui vit parmi les hommes et vibre avec eux. On savoure les sobres et saisissantes images, ces mythes en raccourci, dans lesquels il ramasse un développement serré. La pensée, justement, me rend capable de sentir pour d'autres. Je respecte la source en évoquant les voyageurs inconnus qu'elle désaltérera, ou bien encore, d'où il suit qu'inviter l'homme à respecter la société n'est pas lui demander de se prosterner devant une sorte d'animal énorme, mais devant une grande flamme qui monte vers le ciel et qu'entretiennent les âmes rapprochées. Et ceci enfin dans une note tendre mais si largement évocatrice. Aucun n'exige plus impérieusement autour de lui, lui c'est-à-dire l'enfant nouveau-né, l'association de bonne volonté. Les mains se nouent autour des berceaux. L'enfant apparaît donc en quelque manière comme le créateur de la société humaine, par cela même que le force à rester longtemps penché sur lui. Au risque d'une digression, je me suis laissé aller au plaisir de citer ces belles formules. Mais est-ce vraiment une digression? L'intuition, comme l'enseigne M. Bergson, s'accompagne d'images. Et l'intuition de la vie sociale suggère à M. Bouglet de justes et fortes comparaisons. Jadis, elle suggérait à Gabriel Tarde des contes symboliques où il donnait libre cours à sa verve et à son humour et qu'il appelait des fantaisies sociologiques. C'est ainsi que l'auteur de tant de volumes graves, voire parfois un peu arides, scolastique a écrit les géants chauves et les fragments d'histoire future. Ce dernier mythe est le plus intéressant de toute la philosophie sociale de Tarde s'y retrouve. Et quelque chose de plus qui est tout ce que la rigueur du système l'empêchait d'exprimer. Il est contemporain quant à son élaboration des grands ouvrages sur les lois de l'initiation et la logique sociale, mais il a été publié qu'en 1896 dans la Revue internationale de sociologie. Peut-être Tarde hésitait-il à faire paraître cette fantaisie sociologique. La controverse avec l'école de Durkheim battait son plein. Or, cette école avait déjà de la peine à le prendre au sérieux, à ne pas le traiter d'amateur. Mais voici que notre philosophe lit dans le journal des Goncourt le résumé d'une conversation qu'ils avaient eue avec M. Berthelot, le savant chimiste. Il leur avait prédit, je crois, oui, comme inévitable, après le refroidissement fatal du soleil, la descente de la civilisation sous terre. C'était précisément l'idée maîtresse de son mythe. Il acheva et le publia. Le grand défaut de cette fable, où il y a de l'éloquence, de l'humour, de l'émotion et de la couleur, c'est que le système y transparaît trop et durement, comme une armature rigide sous la soie chatoyante qui la drape. Seul le suprême artiste qui était Platon pouvait, même sans qu'un s'en doutât, toute une philosophie la mettre dans un conte. Les fragments d'histoire future n'en sont pas moins agréables à lire. Et il faut penser surtout, quand l'auteur se contente de rêver et ils contiennent à leur manière la substance de gros volumes de Tarde de là leur intérêt. L'histoire future comprend deux périodes bien distinctes. L'une qui va jusqu'à l'an 2489 de l'ère chrétienne et qui est celle de la civilisation terrestre, perfectionnée par 500 ans de découvertes et d'adaptation, et l'autre qui est la période de la civilisation souterraine, une apoplexie du soleil a entraîné la mort de cet astre, et les hommes, pour échapper au froid meurtrier, se sont réfugiés dans les entrailles de la terre qui naît et se développe une civilisation entièrement nouvelle, dégagée de toute préoccupation économique et sociologique, purement humaine, purement sociale. On reconnaît l'idée favorite de Tarde. Le véritable lien social nous est constamment dissimulé par les besoins vitaux de l'homme et par les tendances utilitaires qui en résultent et qui sont si énergiques qu'on a cru pouvoir les considérer comme les tendances sociales par excellence, à la fois primitives et essentielles. Un cataclysme inouï change entièrement les conditions de la vie humaine et supprime ses tendances en les rendant sans objet. Nul besoin désormais de se nourrir, de se vêtir, de se loger. Partant, plus de commerce ni d'industrie. Mais Quelle va être une telle société? Un vaste salon, un immense atelier d'art, une perpétuelle fête galante. La politesse, la beauté et l'amour étant devenus les trois seules raisons de vivre de ces surhommes sans dureté. Telle est l'âme du mythe. Voyons-le maintenant se développer devant nous. Cette merveilleuse civilisation souterraine n'est pas née du jour où une énorme calotte de glace a recouvert le globe. 500 ans d'évolution sociale l'ont préparée. Après une longue période de guerre ultramoderne, une grande fédération américano-asiatico-européenne avait enfin établi la paix. L'humanité était sortie plus belle de ces sanglants conflits. Mais parce que seuls les infirmes avaient fait la guerre. En outre, la médecine avait accompli de tels progrès qu'il n'y avait plus de malades. Un seul peuple, une seule langue, le grec moderne. Ce qui centuplait la vitesse de propagation de n'importe quelle invention ou idée neuve. La machine ayant réduit à rien la main-d'œuvre, tout le monde lisait, était instruit, voire artiste. Plus de questions sociales, ni de rivalités amoureuses. Tout le monde était riche et beau. Seul subsistait l'ambition politique et le suffrage s'étant étendu à tous les hommes, femmes et enfants, ceux-ci représentés par le chef de famille, il en résulta le rétablissement entièrement de la monarchie. La couronne cosmique fut sainte d'abord par les savants, selon la prophétie d'un ancien philosophe, puis les artistes qui gaspillèrent follement l'argent du trésor, ce qui amena au pouvoir un financier. Et ce fut le triomphe de l'urne, de l'utilité, du médiocre, du laid. Ici, le conte devient satire. Et tarde en donne sans dans la cœur joie. Jamais il n'a eu une si belle occasion de malmener ses vieux ennemis, les utilitaristes, et leurs alliés, les biologistes. Il décrit avec verve ce règne de la platitude, qui finit d'ailleurs un bon règne paisible et confortable. Et il termine, sur ce trait un peu gros, tel était ce dernier successeur de Sémiramis. Il avait en effet dans sa capitale à Babylone, et sur l'emplacement retrouvé des jardins suspendus, il avait fait dresser, aux frais de l'État, une statue de Louis-Philippe en aluminium battu au milieu d'un jardin public planté de lauriers sauce et de choux-fleurs. L'univers était heureux, mais il bâillait un peu. C'est alors que le soleil s'éteignit. Tous les glaciers morts revécurent, reprirent peu à peu leurs anciens domaines, et la belle race humaine allait disparaître entièrement lorsqu'un inventeur parut, ce que la société, si perfectionnée qu'elle fût, n'avait pu trouver, il le découvrit, lui seul, lui, individu, par la seule vertu du génie. Le salut était dans la vie souterraine, à la manière des anciens troglodytes, mais avec tous les perfectionnements de la science. La prodigieuse descente commença. Les survivants n'emportaient avec eux qu'un seul exemplaire de chacun des millions de livres et d'œuvres d'art créées par le génie humain. Et dans cette grotte fantastique que l'art des architectes, ou plutôt des excavateurs, eut vite fait de transformer en un véritable Éden de cristal, la pure vie sociale put naître et s'épanouir. Les nouveaux troglodytes n'avaient pas à se servir les uns des autres. Ils renoncèrent bientôt à se haïr et à s'entretuer. Et on vit bien alors que la vie sociale n'était ni un marché, ni un champ de bataille, mais un commerce d'esprit, une longue et multiple causerie de chacun donne et reçoit. Reçoit quoi ? D'inappréciable rien, des nuances d'âme, des suggestions de beauté, toutes ces belles inutilités, toutes ces valeurs inéluctables qui sont individuelles, mais qui ne seraient pas sans la société. Le génie est souverain. Et d'autres en termes, quiconque enrichit l'humanité d'un beau nouveau, d'une idée nouvelle, d'un frisson nouveau, quiconque fait vibrer et met à l'unisson toutes les âmes de ce phalanstère spirituel, celui-là est le roi et porté sur le parvis de l'admiration et de l'amour unanime. La belle République en vérité, une urbanité sans nom, habile à charmer sans mensonge, à plaire sans servilité, la moins cérémonieuse et la plus subtile, la plus pénétrante et la moins insouciante qui se soit vue, une politesse qui a pour âme le sentiment non pas d'une hiérarchie d'harmonie sociale à respecter, mais d'une harmonie sociale à entretenir, qui se compose non d'airs de cour plus ou moins dégénérés, mais de reflets du cœur plus ou moins fidèles, tels que la surface terrestre n'en a même pas soupçonné, se glisse comme une huile parfumée entre tous les ressorts compliqués et délicats de notre existence. Nulle sauvagerie, nulle misanthropie n'y résiste. Le charme est trop profond. Et ces loups que sont les hommes, au dire de certains philosophes pessimistes, les voilà donc enchaînés. Ils n'ont plus faim. L'argent est sans pouvoir sur eux. Qu'en feraient-ils? Les seules valeurs qui comptent à leurs yeux sont les valeurs spirituelles. On ne se bat pas pour elles. On s'unit afin de les accroître et on acclame le penseur ou l'artiste qui enrichit le patrimoine commun, qui crée une nouvelle possibilité de jouissance supérieure. Éternelle utopie, comme si on ne s'entre-déchirait pas pour une idée, une croyance, une formule d'art. Et l'amour, faute de laideur, on n'appréciait guère, ni n'enviait l'amour, que l'abondance extraordinaire de jolies femmes et de beaux hommes rendait si commun et si peu malaisé, en apparence au moins. C'est à quoi on était arrivé avant la catastrophe. Mais dans le paradis souterrain, voici que l'amour, naguère méprisé comme une denrée surabondante, devient la valeur suprême, la vraie religion universelle et permanente, l'austère et pure morale, qui avec l'art se confond. D'où vient que toutes les descriptions, quelles qu'elles soient, de l'âge d'or, nous paraissent à la longue fastidieuses, de ce qu'elles méconnaissent, des vérités, dont nous avons le sentiment de ce qu'elles se trompent allègrement sur les conditions du bonheur humain, de ce qu'elles semblent ignorer, ce qu'il y a en nous de plus profond, de plus vivace et de plus incurable, notre inquiétude, notre nostalgie, notre invincible besoin de divertissement. C'est pourquoi tarde, revenant à la réalité, frottant ses yeux, encore tout ébloui du songe bleu, glisse sans mythe une pointe d'amertume et de souffrance. Ces troglodytes condamnés à une vie toute spirituelle, à des amours toutes platoniques, car si l'espèce pullulait, la vie serait impossible dans la caverne. Ne sont point cependant de purs esprits. Les plus grandis, les plus doués, transforment en suprême beauté la souffrance de leurs désirs inassouvis. Voilà la sublimation de Freud et de son école. Les plus faibles en meurent, et cela arrive quelquefois, très souvent même, qu'on s'attarde, qui retrouve enfin un peu de sens psychologique. Finalement, ces suicivilisés reviennent au plaisir méprisé d'autrefois. Pascal a bien dit ce qui arrive quand on veut faire l'ange, et tarde l'entrevoit. Décadence, prononce-t-il. Mais décadence inévitable. On ne force pas impunément la nature. Les réformateurs de la société devraient bien s'en aviser. Le troglodyte du mythe tardien ne connaît rien de plus beau que le ciel bleu qui brille au-dessus de la calotte de glace et tue ceux qui le contemplent. Et n'aime rien tant que le printemps, qui ne fait rien fleurir dans sa grotte somptueuse, mais dont le fantôme errant revient périodiquement le visiter et susciter en lui des impulsions dangereuses. Qu'on essaye d'enlever à l'homme d'aujourd'hui sa petite part de bien, son petit quant à soi, sa petite philosophie, qu'on le mette dans un superbe, splendide phalanstère, où il possède à la fois tout et rien, où sa vie, ses idées, ses croyances même sont réglées et remaniées par des hommes de génie. On verra bien vite ce que seront ses suprêmes valeurs. Un os qu'il aura réussi à posséder en propre, une heure de liberté, volée au règlement, un morceau de bois taillé qui sera son Dieu et qu'il adorera en cachette. Et telle est la vertu des contes. Leurs erreurs même sont instructives. Leur invraisemblance excite la méditation. On corrige en souriant, la brillante et fallacieuse esquisse, et le nouveau dessin, plus modeste, n'est pas sans beauté, il est plus vrai.